Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. En novembre dernier, le premier ministre grec Alexis Tsipras et le chef de l'Église orthodoxe de Grèce annonçaient fièrement une refondation des relations de l'Église et de l'État. Mais après plusieurs mois de négociations, le clergé bloque toute réforme. Il refuse notamment tout changement sur le statut des prêtres, assimilé jusqu'ici à des fonctionnaires. Dans le pays où il n'y a toujours pas de séparation de l'Église et de l'État, le sujet fait polémique et la réforme risque de ne pas aboutir. Charlotte Stevenard.
C'est la fin de la messe dans l'église d'Agia Varvara, un quartier d'Athènes. Mary travaille à l'université, elle vient ici tous les week-ends.
Pour moi, c'est un honneur d'être grec. J'estime que l'hellénisme et l'orthodoxie sont inséparables. C'est une bonne chose. L'orthodoxie, pour moi, comment dire, c'est de là que le peuple grec tire les forces qui lui ont permis de survivre. C'est ce qui lui permet de rester debout.
Si 98% des Grecs se déclarent orthodoxes, les églises ne sont cependant pas pleines le dimanche, mais elles continuent de jouer un rôle social important, particulièrement depuis la crise, comme l'explique le père Ioannis. Il officie à Agia Varvara depuis 19
ans. Ces jours-ci, avec la crise, l'Église joue un rôle important dans l'assistance aux personnes en difficulté. Nous, à Agia Varvara, nous distribuons 120 repas par jour et nous donnons aussi du sang, deux fois par an pour différents hôpitaux. Nous donnons aussi des médicaments, des vêtements. Nous payons les factures de téléphone et l'électricité de nombreuses personnes. Notre Église collecte l'argent auprès de ses membres car elle n'a pas de revenus, puis elle leur rend en quelque sorte. Il y a aussi les grands supermarchés qui nous fournissent des produits alimentaires et bien d'autres choses.
Au début du 19e siècle, lors de sa création, l'État grec a récupéré une partie des biens de l'Église sans verser d'indemnisation. Une centaine d'années plus tard, en guise de réparation, il a décidé de prendre en charge le salaire des prêtres. Comme ses collègues, le père Ioannis Melissaris est donc payé par le ministère de l'Éducation et des Cultes, avec un statut assimilé à celui des fonctionnaires. Il a lui-même été touché par la crise.
Analogous ta chronia et analogous ta categoria. Allez.
Moi qui ai 33 années d'expérience, je gagne 1400 euros par mois. Avant, on gagnait environ 2000 euros. Les jeunes prêtres, eux, perçoivent 600 à 700 euros par mois. Et puis il y a ceux qui font tout ça bénévolement, à côté de leur retraite ou de leur travail principal. Dans ces conditions, et avec l'inflation, c'est difficile pour une famille de vivre correctement en Grèce. Ma femme, on dit ici la papadiara, la femme du pop, est obligée de travailler pour compléter nos revenus. J'ai trois enfants qui ont la trentaine et il n'y en a qu'un qui a du travail.
À la mi-février, le syndicat du clergé s'est réuni car il craint de perdre ce statut très particulier. En novembre dernier, le premier ministre grec Alexis Tsipras et l'archevêque Hieronymos ont annoncé la création d'un fonds spécial géré par l'Église auquel l'État verserait une somme fixe qui permettrait de payer les 10 000 prêtres orthodoxes du pays. Yorgos Selis, le président du syndicat, y voit une stratégie assez claire.
Pour être plus précis, ils veulent libérer des places dans le secteur public pour pouvoir engager d'autres fonctionnaires. C'est ça leur objectif. Ils veulent sortir 10 000 membres du clergé pour engager 10 000 fonctionnaires.
Mais la réforme ne s'arrête pas au statut des prêtres, comme l'explique le ministre de l'Éducation et des Cultes, Kostas Gavroglou, compte inscrire la neutralité religieuse de l'État dans la Constitution.
Cela garantirait la liberté de culte et le fait que les citoyens puissent pratiquer n'importe quelle religion. Dans le même article, nous inscrivons également les termes de religion prévalente. Prévalente signifie que c'est la religion de la majorité et pas la religion exclusive de l'État. C'est ça le changement que nous voulons faire et la discussion sur ces thèmes commence aujourd'hui au Parlement.
Le gouvernement veut aussi régler un vieux litige entre l'Église et l'État. Depuis les années 50, ils se disputent la propriété d'un certain nombre de biens qui végètent. Il s'agirait de créer un fonds qui permettrait de les valoriser et dont les revenus seraient reversés à part égale aux deux parties. Mais le Saint-Synode, l'organe collégial de l'Église, bloque toute négociation. Il refuse catégoriquement tout changement sur le statut des prêtres. Le professeur adjoint en droit ecclésiastique, Yorgos Andritsopoulos, estime que l'influence de l'Église est encore importante, non pas au niveau institutionnel, mais au niveau du corps électoral.
Nous parlons de 10 000 prêtres qui sont basés dans différentes paroisses. Chaque dimanche, ils prêchent, ils parlent de l'évangile, donnent des conseils, etc. Ils peuvent aussi utiliser leur micro pour critiquer les décisions politiques et ainsi influencer les croyants qui fréquentent ces églises. L'État prend ça en compte.
Alors que la Grèce est le pays d'Europe qui a le plus de prêtres par rapport à sa population, on attend désormais de voir ce que fera le gouvernement d'Alexis Tsipras. À quelques semaines des élections européennes et municipales, puis des élections législatives à l'automne, un passage en force semble peu probable. Il n'est pas non plus question de modifier le système d'imposition de l'Église, qui paye des impôts, mais pas sur ses lieux de culte, un sujet devenu particulièrement sensible depuis la crise et l'augmentation générale des taxes.
La République tchèque sera-t-elle le premier pays de l'ancien bloc communiste à faire adopter pour de bon le mariage homosexuel ? La loi est en cours d'examen au Parlement, mais la route est longue et les opposants reçoivent même du soutien de l'étranger, notamment de France, avec la Manif pour tous qui s'exporte. C'est le reportage d'Alexis Rosenzweig.
Je pense que les couples de même sexe devraient pouvoir avoir les mêmes droits que ceux accordés par le mariage. C'est ce qu'a indiqué la semaine dernière le Premier ministre tchèque Andrej Babiš à la télévision, tout en précisant que le sujet divisait jusque dans son propre parti libéral et au sein même de son groupe parlementaire. C'est une de ses députées qui a initié la proposition de loi devant instaurer le mariage pour tous et faire ainsi de la République tchèque le 17e pays européen à légiférer dans ce sens. Cette loi est déjà passé en première lecture à la chambre basse du Parlement. Le passage en deuxième lecture est normalement pour cette semaine. C'est ce qu'espère Daniel Vondra de l'association SMEFER qui milite en faveur du mariage pour tous.
Nous sommes optimistes, il le faut. Les forces en présence au Parlement sont assez équilibrées. On va voir comment va se dérouler le vote de la loi. Du côté de l'opinion publique, les Tchèques sont prêts à accepter le mariage pour tous. Plus de 2/3 y sont favorables et plus de 75% chez les jeunes.
Aucune manifestation dans la rue jusqu'ici, mais les adversaires du mariage pour tous s'emploient à rassembler leurs forces dans la perspective du vote. Pourquoi nous avons besoin d'une définition du mariage dans la Constitution ? C'était le thème d'un séminaire qui s'est déroulé au début du mois à la Chambre des députés. Ce séminaire était organisé sous le patronage du député du Parti conservateur ODS, Marek Benda. Il figure parmi la quarantaine de législateurs à soutenir un texte qui vise à faire inscrire dans la loi fondamentale du pays que le mariage est une union entre un homme et une femme uniquement.
Il faut une inscription dans la Constitution, car sinon le danger qui nous menace est similaire à ce qui s'est passé aux États-Unis ou en Autriche, à savoir une décision prise par un juge venant modifier la définition du mariage, c'est-à-dire une union entre un homme et une femme uniquement. Le mariage est une union que l'on connaît depuis 2000 ans et qui a toujours été entre un homme et une femme.
Parmi les invités étrangers à ce séminaire pragois, il y avait une figure bien connue de la lutte contre le mariage homosexuel en France, où il a été adopté en 2013. Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, n'a pas jeté l'éponge pour autant.
Je pense qu'il faut vraiment solidifier, protéger le mariage entre un homme et une femme, parce que, comme le montre la France, dans de nombreux pays occidentaux, petit à petit, on légalise le mariage entre deux personnes de même sexe, ce qui a pour conséquence d'ouvrir ensuite à la PMA, pour les couples de femmes ou les femmes seules d'ailleurs aussi, ou à la gestation pour autrui, puisque le mariage c'est pour fonder une famille et que tout simplement deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas fonder une famille ensemble tous les deux.
C'est important pour vous de venir prêcher la bonne parole dans cette région ou dans le reste de l'Europe ?
Ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience des autres pays, ceux qui ont déjà passé telle ou telle loi, est extrêmement importante dans le cadre d'un débat et d'une réflexion.
La loi tchèque autorise déjà les couples homosexuels à conclure un partenariat enregistré, un peu l'équivalent du Pacs français. Pourquoi le pays est-il en passe d'aller plus loin et de devenir le premier des anciens pays communistes à valider le mariage pour tous ? Pour le militant des droits LGBT Daniel Vondra, l'une des raisons est l'athéisme largement répandu chez les Tchèques, mais ce n'est pas la seule.
La République tchèque a toujours appartenu culturellement à l'Occident. Même du temps de l'Empire austro-hongrois, Prague était déjà tolérante. Et notre histoire, l'histoire du développement de notre société ces deux derniers siècles, est bien différente de l'histoire de nos voisins, de la Pologne notamment.
La Gay Pride est organisée tous les mois d'août à Prague et l'atmosphère pourrait être encore plus festive que d'habitude si jamais le mariage pour tous était voté d'ici là.
Le peuple contre la démocratie, c'est le titre choc du livre ambitieux de Yascha Mounk, un jeune politologue américain d'origine allemande. Professeur de théorie politique à l'université d'Harvard, Yascha Mounk décortique les phénomènes populistes dans le monde et il n'hésite pas à écrire que la démocratie est en danger. Sylvie Noël lui a demandé comment il expliquait cette montée du populisme, notamment en Europe, alors que l'on a pu croire, après la Seconde Guerre mondiale, que la démocratie était un aboutissement, le régime politique par excellence.
La plupart des gens n'ont pas l'impression que leur vie est meilleure que celle de leurs parents à cause de l'immigration. Il y a beaucoup de gens qui acceptent et même célèbrent ça, mais il y a aussi des grandes parties de la société qui se rebellent contre cette hétérogénéité. Et finalement, il y a les réseaux sociaux qui permettent aux extrémistes, qui permettent à ceux qui veulent incliner la haine, d'avoir une voix beaucoup plus importante dans notre système politique. Ces trois facteurs ensemble, ça crée un cocktail très dangereux.
Et ce sont ces facteurs qui expliquent la montée du populisme dans le monde.
C'est certainement ces facteurs qui favorisent la montée du populisme.
Vous étudiez le mécanisme de mise en place et de confiscation des partis populistes quand ils arrivent au pouvoir et vous montrez bien dans votre livre que cette confiscation du pouvoir se fait par étapes.
Oui, alors ce qui unit tous les différents populistes, ça n'est pas une idéologie, c'est une manière de penser la politique. Tous les populistes autoritaires disent que eux, juste eux-mêmes, sont les représentants légitimes du peuple. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont beaucoup de difficultés à accepter les institutions indépendantes, à accepter par exemple que les juges ne sont pas sous leur contrôle. Ils ont beaucoup de difficultés à accepter une presse libre qui peut les critiquer, qui peut montrer comme en fait leurs promesses d'abolir la corruption ne sont pas vraies, ils sont encore plus corrompus que les politiciens qu'il y avait avant. Ils ont des problèmes d'accepter même le fait d'une opposition libre. Et alors, quand on va dans un pays comme l'Hongrie, des populistes autoritaires qui étaient au début élus, sans doute de manière démocratique, changent le système dans une telle manière, prennent tellement de pouvoir, abolissent les institutions indépendantes à quel point qu'ils ne peuvent plus être virés du pouvoir de manière démocratique.
Et d'ailleurs, vous expliquez que c'est souvent lors du second mandat que ce régime autoritaire s'installe de façon très permanente.
Exactement. Je viens juste de voyager le long de l'ancien rideau de fer. Ça s'est transformé aujourd'hui dans un rideau populiste. On peut voyager de Szczecin dans le nord de l'Europe jusqu'à Trieste dans le sud sans jamais échapper à un pays gouverné par les populistes. Et on voit ce contraste de manière très frappante là-bas. Alors, en Pologne, il y a un gouvernement qui est un danger pour la démocratie, mais parce qu'il est juste été au pouvoir pour 4 ans, il y aura encore des élections plus ou moins libres. Et alors, l'opposition polonaise a une vraie opportunité de virer ce gouvernement avant qu'il se transforme dans une dictature, dans une démocratie complète. Après, je suis allé en Hongrie et là, ça n'est plus le cas. Les partis de l'opposition peuvent presque pas faire leur travail parce qu'ils doivent payer beaucoup, beaucoup d'argent à l'État pour des raisons fictives. Les gens dans la rue avaient beaucoup de peur de parler avec des journalistes parce qu'ils disaient en fait que si je critique le gouvernement aujourd'hui, c'est possible que je perde mon travail. Demain, il n'y a plus une presse libre qui critique vraiment le gouvernement, alors dans un pays où un populiste comme Orbán est déjà au pouvoir depuis 8 ou 9 ans, la démocratie est déjà en train de se déconsolider et même de mourir.
Yascha Mounk, auteur du Peuple contre la démocratie, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Comment éviter aujourd'hui en France de produire trop de CO2 à Amiens, dans le Nord? Une solution a été trouvée, celle du réseau de chaleur. Le modèle est unique dans le pays. Il va utiliser 5 sources d'énergie renouvelable et de récupération, comme les déchets, pour chauffer l'équivalent de 19 000 logements. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Lise Verbeck.
Aucun habitant d'Amiens ou visiteur d'un jour de la capitale Picarde n'a pu passer à côté des travaux qui durent maintenant depuis plus d'un an. Des tranchées se creusent et se recouvrent dans de nombreuses rues pour accueillir donc les gros tuyaux du réseau de chaleur. Le réseau traverse la ville du nord au sud sur 40 km. L'objectif est de chauffer mais aussi d'alimenter en eau chaude des logements sociaux, des bâtiments publics, des piscines, un hôpital et des entreprises privées d'ici la fin de l'année. Le tout récupérant de l'énergie produite sur le territoire. Énergie qui est actuellement perdue, comme les eaux usées d'une station d'épuration. Chaque année, plus de 8 millions de mètres cubes d'eau épurée sont rejetés par le site. L'idée est donc de récupérer les calories produites par ces eaux usées grâce à 6 pompes à chaleur pour ensuite alimenter le réseau. L'avantage de ce système est de s'adapter à la saisonnalité. En été, quand on n'a plus besoin de se chauffer, certaines pompes seront mises à l'arrêt. La deuxième principale source d'énergie sera une chaufferie biomasse. On récupère tous les déchets végétaux qui viennent du département, notamment du bois, pour produire de la chaleur. Viennent ensuite d'autres sources d'énergie renouvelables, comme la méthanisation, la géothermie qui vient des nappes, ou encore le biogaz. Ce type de réseau a un double avantage. D'abord, il permet aux bénéficiaires de remplacer leurs vieilles chaudières et surtout d'alléger leurs factures d'énergie grâce à une TVA réduite à 5,5 contre 20% pour les autres sources d'énergie, notamment l'électricité. Il est aussi moins polluant car il permet d'éviter 28 000 tonnes d'émissions de CO2 dans l'air, sachant qu'un aller-retour en avion Paris-New York émet une tonne de CO2. Tout cela a bien sûr un coût, plus de 60 millions d'euros d'investissement assurés par la ville d'Amiens.
Il n'y a pas que le Brexit qui empoisonne en ce moment la vie des Britanniques. Plus étonnant, de charmantes petites bêtes a priori, des écureuils gris sont en train d'envahir les parcs. Ces écureuils étrangers, ils sont 3,5 millions quand même, menacent l'espèce locale toute rousse. Alors certains ont émis cette proposition iconoclaste, pourquoi ne pas les manger? C'est ce qu'on va voir avec Marie Billon.
Samedi soir, Robert Gooch reçoit des amis à dîner. Le vin est sur la table et les amuse-gueules aussi, notamment un bol de cuisses d'écureuil. Robert vit à l'est de l'Angleterre, dans la région du Suffolk. Son entreprise Wild Meat Company est spécialisée dans la vente de viande de gibier. Le chevreuil est le plus populaire, mais dans le top 5, il compte maintenant l'écureuil. Cela fait 8 ans qu'il en vend, mais la popularité du rongeur a éclaté ces derniers temps. Lui-même est un amateur. Sa recette favorite, faire revenir la viande désossée à la poêle avec du beurre et de la gelée de groseille. Une carcasse pèse environ 250 grammes et coûte 5,60 €. Un écureuil nourrit une personne. Robert en vend plus de 300 par mois à des particuliers audacieux et à des restaurants excentriques à Londres et dans tout le Royaume-Uni. Alors, pourquoi l'écureuil est-il en vogue? La vertu est à l'œuvre, dira-t-on. D'abord, il y a des écureuils gris partout et tout le monde peut les chasser. Il s'agit toujours donc de la viande locale, adieu transport polluant. C'est une viande blanche et maigre, Robert la compare à de la grenouille, c'est donc bon pour la santé et surtout ça fait du bien aux écureuils. Alors, au roux bien sûr, pas au gris. Ces petits rongeurs rouquins sont une espèce en danger, leurs cousins gris américains d'origine sont plus robustes, ils leur piquent la nourriture, abîment leur habitat et les chassent de leur territoire. Selon plusieurs associations, tous les moyens sont bons pour diminuer la population des écureuils gris. Alors, plutôt que de jeter les carcasses après les avoir tués, autant s'en repaître. C'est d'ailleurs ce sur quoi compte Robert. Ces rongeurs, il ne les tire pas lui-même, ce sont les fermiers et les chasseurs qui lui rapportent. Il y a bien sûr des contrôles sanitaires appropriés dans ces locaux, mais finalement, avec le Brexit, si les imports de viande viennent à se tarir, l'écureuil gris sera peut-être le sauveur protéiné des Britanniques isolés.
Accent d'Europe, c'est fini. Jusqu'à demain, la réalisation Françoise Grelot et Thomas Trochot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.